Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Ces parfums qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. César de pain, laisse s'accomplir la magie.
Cézanne Pain. Cézanne Pain, la très belle chanson de France Gall, et Cézanne Pain. Effectivement, l'art. Qu'est-ce que l'art ? Ça me rappelle un titre d'Aragon, après À bout de souffle. Il avait fait une page entière dans la lettre française, et il avait titulé « Qu'est-ce que l'art ? Jean-Luc Godard ». Et là, on va demander « Qu'est-ce que l'art ? Michel Onfray ». Et on va en parler parce que, et je commence par cette anecdote magnifique que Picasso racontait. Et un jour, une dame regardait un vernissage. « Excusez-moi, monsieur Picasso, je sais que je vous paraître un peu bête, mais enfin, franchement, vos peintures, mais c'est du chinois. » Il dit « Mais madame, si vous ne connaissez pas le chinois, il faut apprendre le chinois. Ça s'apprend, l'art, et ça s'apprend. » Et on a un livre, notamment, qui vraiment... Et c'est pour ça qu'avec Céline Alonso, on a décidé d'inviter Michel Onfray. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Sur les raisons de l'art. Qu'est-ce que l'art, Michel Onfray ? On en parle longuement. Tout de suite.
Le parfum Terre de France. 100% des bénéfices au service de notre pays. Présente.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
La chaise de Van Gogh, où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne chausses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête plus. Quand je vois la folie,
je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Ce merveilleuse chanson de Léo Ferré en hommage à Van Gogh, Vincent Van Gogh. Rappelons, mort le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise, le suicidé de la société, comme l'appelait Antonin Artaud. Et on va parler d'art. Et l'art, effectivement, ce n'est pas quelque chose pour les gens conformes, pour les gens dans le moule, pour les gens balisés. Céline Alonso.
Eh oui, on va en parler donc avec le philosophe Michel Onfray, jusqu'à 14h donc sur Sud Radio. Alors bonjour à vous Michel. Vous publiez chez Albin Michel un livre passionnant, Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux, à Jeff Koons. Alors ce n'est pas la première fois que vous écrivez donc sur l'art. Vous avez écrit, donc vous avez fait une vingtaine de livres sur des artistes contemporains comme Combaz, Ben, Garouste et notamment Adami. Vous avez même exposé leurs œuvres à Argentan, votre ville natale. Alors pour certains aujourd'hui, donc, l'art contemporain est mort, il mériterait même la poubelle. Est-ce que c'est pour leur prouver qu'ils ont vraiment tort que vous avez écrit ce livre ?
Je m'adressais moins à tous ces gens qui nous disent que l'art est mort. Je pense à Luc Ferry ou André Comte-Sponville, dont on n'attendrait pas ça. Je veux dire, un philosophe qui nous dit que l'art est mort, c'est pas possible, c'est pas pensable. Je m'adresse plutôt à des gens, même si je le dis en toute amitié avec Luc Ferry, nous débattrons de ces sujets-là ensemble, on a prévu ça. Mais je le dis plutôt, j'écris plutôt à l'endroit des gens simples. Et pour moi, c'est une qualité, je dirais. Les gens qui, sur les micro-trottoirs, disent « mais l'emballage de cristaux, là c'est n'importe quoi, ou alors le plug anal, c'est vraiment incroyable ». Et ils n'ont pas complètement tort d'être contre un certain nombre d'œuvres. Moi, je défends cristaux, le plug anal, c'est un truc de gamin, quoi. Ça n'a pas grand sens.
Ou les tulipes de Jeff Koons, par exemple.
Oui. Et donc, je m'adresse à la plupart, un peu comme je m'adressais à mes élèves quand j'étais prof dans un lycée technique, en disant, et André a rappelé cette anecdote de l'art comme d'un langage, et si on n'apprend pas le langage, comment pourrait-on le comprendre et comment pourrait-on avoir un avis? Et je dis que le beau, c'est une erreur. C'est peu de temps dans l'histoire de l'art, l'histoire du beau. C'est le temps de l'esthétique, et l'esthétique, c'est Baumgarten, c'est un philosophe du XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est tard. Parce que je pense que les hommes, ou peut-être les femmes, enfin les personnes qui sculptent dans Lascaux ou qui peignent à Lascaux, ce ne sont pas des gens qui disent « Ah, on va faire un beau bison ».
Mais quelles étaient la raison de leur art
alors à l'époque ? Le propre de ce livre, c'est de dire il y a des raisons qui sont toutes différentes en fonction des époques. On ne sait pas parce que les traces n'existent, enfin il n'y a pas évidemment d'enregistrement de livres ou quoi que ce soit, de témoignages qui nous permettraient de savoir ce qu'était la pensée des hommes des cavernes. Ce qu'on peut simplement savoir, c'est qu'ils n'étaient pas dissociés de la nature et que il n'y avait pas cette obsession cartésienne de séparer l'homme du monde en disant il y a le monde et il y a moi-même, ou l'obsession chrétienne même plutôt, d'opposer l'homme et le monde. Non, je pense qu'ils savent que le monde s'est fait de vibrations, d'énergie, de mystère, de puissance, que quelque chose gouverne la nuit et le jour, le changement des saisons. Ils découvrent bien que le petit garçon va devenir un adolescent, puis va devenir un homme âgé, puis il va mourir, qu'il va disparaître. Donc tous ces mystères-là sont saisis par ces hommes qui essaient de communiquer avec un arrière-monde. Je pense qu'à cette époque, les artistes sont des gens qui communiquent avec l'arrière-monde, qui essaient de communiquer avec l'arrière-monde, avec les esprits, avec les âmes. Et donc je dis, mais ça se passe comme ça à cette époque, et aujourd'hui, évidemment, c'est pas la même chose si c'est Jeff Koons. Je pense pas que Jeff Koons ait l'impression qu'il communique avec les âmes ou avec l'au-delà.
Oui, vous dites qu'à l'époque, ils avaient surtout le souci du sens.
Tout le temps. Je pense que tous les artistes ont le souci du sens, et qu'un peintre, c'est pas quelqu'un qui... ou un artiste, un sculpteur, un musicien, c'est pas quelqu'un qui dit « je fais une belle peinture ». André parlait tout à l'heure de Picasso, il y a le magnifique film de Clouseau, Le Mystère Picasso, où on le voit peindre sur une vitre, et puis il efface, puis il recommence, et on voit le génie de l'homme. Et à aucun moment, il n'a envie de faire quelque chose de beau, Picasso, il a envie de faire quelque chose qui fasse sens. Alors après, on a entendu une très belle chanson sur Cézanne. Cézanne, qui est un peintre pour les peintres, parce qu'il parle de la vérité en peinture, invente le cubisme en disant « mais si nous voulons voir un objet sous toutes ses faces, comment est-ce qu'on s'y prend ?» Et puis on développe le réel, on fabrique le cubisme, etc. etc. Donc il y a une histoire de l'art dans laquelle les sens changent. Ce que veulent les Grecs, c'est pas ce que veulent les Romains. Ce que voulaient les hommes préhistoriques, c'est pas ce que veulent les hommes de la Renaissance.
Alors justement, à propos des sculpteurs grecs, vous émettez l'hypothèse que quand ils travaillent leur bloc de marbre, ils n'engagent pas un corps à corps, effectivement, donc avec la beau, mais avec le temps. Oui. C'est-à-dire, expliquez-nous.
Eh bien, si vous allez dans un musée voir des sculptures grecques, d'abord, il faut savoir qu'elles ne sont pas blanches, contrairement à ce que disent un certain nombre de crétins du décolonialisme aujourd'hui, qui nous disent que c'est le privilège blanc. Il faut juste savoir qu'à l'époque,
la couleur a disparu.
Mais voilà, la couleur a disparu, mais à l'époque, quand le marbre est taillé, il est choisi parce que c'est la substance qui permet le mieux la luminosité de la couleur qu'on y posera. Donc la chair est rose, les cheveux sont châtains ou sont blonds, les yeux sont bleus ou verts ou je ne sais quoi. Et donc on a un corps incroyable, un corps qu'on a 2 ou 3 ans dans sa vie chacun, et encore, pas tout le monde. C'est-à-dire c'est le corps de l'adolescent, c'est le corps de l'adolescente, pas un poil de graisse, une beauté incroyable, et il s'agit d'arrêter le temps, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas durer, ce corps qu'on a. Et très rapidement, on va avoir le corps que tout le monde a, et qui est un corps, pour le coup, signifié par les Romains. Les Romains, eux, ne sont pas du tout dans cette logique-là.
Ils sont dans laquelle, alors, les Romains ?
Alors, les Romains, ils disent, si, par exemple, on fait une sculpture de Cicéron, eh bien, on va le sculpter comme il est.
On le voit avec ses rides.
Alors, il est chauve, il a des rides, il a un petit pois chiche, comme on dit, c'est l'origine de son nom, Cicéron. Et donc, c'est un photomaton, d'une certaine manière. On représente fidèlement. Imaginez que le portrait de la sculpture de Caton, ou des autres, hein, je veux dire de Cicéron, elle soit justement avec une peau rose, avec etc. On est en présence même de Cicéron. C'est-à-dire que les Grecs nous montrent un corps qui échappe au temps, un corps idéalisé, d'une certaine manière, alors que les Romains nous montrent un corps dans le temps, et fixé dans le temps, mais arrêté dans le temps, mais vraiment dans le temps. Donc on ne peut pas dire les sottises qu'on dit habituellement, du genre « Ah, les Grecs avaient le souci de la beauté », pendant que les Romains, qui étaient un peu crétins, n'arrivaient pas à faire la même chose qu'eux, leur sculpture était un peu épaisse, ils ne savaient pas trop, ils manquaient de talent, c'était des gens doués pour les aqueducs, pour la guerre, mais pas pour l'art. Non, c'est que leur art ne signifiait pas la même chose que ceux des Romains, ceux oui. des Romains.
Leur parti pris, en fait, c'est celui de la philosophie de l'être, en quelque sorte.
C'est ça. Ouais. C'est, ce qui est intéressant pour un Romain, c'est l'ici et maintenant. Si on fabrique des héros, on fabrique des soldats et des paysans pour la Rome de la République. Pour la Rome de l'Empire, c'est autre chose. Mais je veux dire que le philosophe, s'il doit exister chez les Romains, c'est pour fabriquer la cité. C'est pas du tout pour faire des sophismes, de la rhétorique, de la dialectique. Quand des philosophes grecs arrivent sur le forum, à Rome, on les renvoie en disant « et ça va bien, des gens comme ça, on n'a pas besoin de gens comme vous ». Quoi. Le platonisme, ça marche pas.
Soyons pratiques et pragmatiques.
Soyons pratiques. C'est pourquoi ils sont plutôt stoïciens. Et donc, ils veulent fabriquer des belles individualités. Et la belle individualité, c'est un homme. Hélas, on est dans cette configuration où les femmes sont là pour faire des enfants, etc. Mais c'est un homme qui est à la fois soldat, paysan, mais en même temps sénateur, qui est un homme de la cité. Donc il y a une espèce de virilité qu'il s'agit de restituer par la sculpture.
Oui. Alors passons maintenant au Moyen-Âge, qui figure effectivement le longtemps chrétien. Alors dans votre livre, vous dites qu'effectivement, donc, deux œuvres encadrent cette période. L'une date du IVe siècle, c'est le Tropeophore. L'autre du XVe, c'est un portrait d'une femme par Botticelli. Qu'est-ce que le Tropeophore ? Expliquez-nous.
Alors, c'est le moment où l'art devient chrétien. C'est-à-dire que, bon, je l'ai beaucoup dit, pour moi, Jésus n'existe pas historiquement, mais il existe dans l'Ancien Testament comme une figure appelée à venir. C'est ce que disent les Juifs. Et certains Juifs disent, non, il n'est pas à venir, il est déjà venu, il s'est appelé Jésus, il a fait ceci, il s'est comporté comme cela, etc.
Le Messie.
Et le Messie. Là, oui. Ceux qui disent, les Juifs qui disent le Messie est encore à venir sont les Juifs d'aujourd'hui, enfin, qui sont restés Juifs, je dirais. Et les Juifs qui sont devenus chrétiens, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, sont ceux qui disent, ne l'attendez plus, il est venu, et comme il était dit dans les nombres, dans le Deutéronome, enfin dans l'Ancien Testament, du moins dans le Pentateuque, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, la Torah, qu'il serait ceci, il serait cela, comme par hasard, quand il est venu, il était ceci, il était cela. Donc il a une existence conceptuelle. La peinture et l'art vont lui donner une existence réelle. Pour le coup, on va inventer un
historique.
Jésus. Voilà.
Historique.
Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, la crèche, etc. Vous ne trouvez ni bœuf, ni âne, ni crèche dans les évangiles. Il n'y en a pas. Simplement, la peinture va donner figure à quelque chose qui n'existe pas. Et cette œuvre dont vous parlez, c'est l'œuvre que Constantin fait fabriquer pour célébrer sa puissance. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que, bon, Jésus dans son étable, tout ça, c'est fort sympathique, mais que, tout de même, ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est-à-dire l'association de Dieu et de l'empereur, il y a un Dieu dans le ciel, il faut qu'il y en ait un sur terre, et le Dieu sur terre, c'est l'empereur, et l'empereur sur terre, c'est le représentant de Dieu sur terre. On fabrique le césaropapisme, mais pour le coup, l'art devient un chrétien, et ce, pendant 1000 ans.
Oui, 1000 ans. Alors après, c'est la... oui, au moins, après, c'est la Renaissance. Vous dites que c'est le temps de l'allégorie. Après la Renaissance, c'est le temps de l'immanence, donc incarnée par la nature morte. Comment sommes-nous arrivés, justement, à l'époque du temps profane ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire...
Pardon, je voudrais qu'on revienne à Botticelli.
Ah, Botticelli,
et oui,
qui
parce
est actuellement
c'est
célébré
intéressant quand
au
vous
musée
donnez...
Jacquemart-André à
oui,
Paris.
Oui, tout à fait, ouais. Excellente exposition, magnifique au musée Jacquemart-André. Mais justement, de Constantin à Simonetta, c'est extraordinaire parce que c'est vrai que ce portrait qui, encore une fois, si vous êtes à Paris, vous venez à Paris, vous allez au musée Jacquemart-André, vous verrez, il est là ce portrait de Simonetta, par Botticelli. En fait, c'est la perfection de où on est arrivé, de cette Renaissance avec Botticelli.
Alors, c'est un peu le début de la fin, je dirais, la Renaissance. Mmh. C'est-à-dire que le christianisme nous dit la vérité du monde est dans un livre qui dit le monde, et c'est la Bible, et au-delà de ça, c'est pas la peine d'aller chercher, tout est là. Et la Renaissance nous dit, pas exactement, il y a aussi l'Antiquité. Et l'Antiquité, ça peut être aussi bien Platon que Plotin, qui est un platonicien, mais ça peut être aussi Épicure.
Le polythéisme.
Être... C'est le polythéisme. Mais c'est une façon de dire, mais faites attention, la vérité du monde n'est pas dans les livres, le livre qui dit le monde, mais la vérité du monde est dans le monde. c'est aussi l'époque où on a découvert les Amériques, parce qu'on a inventé la caravelle qui permet de se déplacer au travers des océans, et d'un seul coup on découvre qu'il y a des hommes qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas catholiques, et on se pose la question du sont-ils des humains, sont-ils des animaux, ont-ils une âme, etc. etc. Et donc la Renaissance, c'est cette façon de dire élargissons le monde au monde et allons voir du côté des idées. Et
mais ça se traduit comment en art? Alors
Botticelli, justement, ouais. c'est quelqu'un qui nous dit allons voir du côté de l'idée. Et c'est un art platonicien. Même plutôt néo-platonicien, parce que c'était un Platon revu et corrigé par un philosophe qui s'appelle Marcile Ficin. Et cette peinture-là, elle nous dit il faut montrer la beauté du monde intelligible. Or, la beauté du monde intelligible, elle est, selon Platon, invisible. Elle est concevable par l'intellect, mais elle est absolument invisible. Botticelli se propose de rendre visible l'invisible avec ses personnages éthérés. C'est le principe de cette peinture. Quand on voit le printemps, quand on voit, par exemple, la façon de
la naissance de Vénus,
la restitution du corps féminin, on voit bien comment ce corps est presque fait de pas de fumée, parce que ça supposerait le sfumato, c'est pas ça, c'est l'imprécision, mais une espèce de d'opalescence, de transparence, et c'est ce qui fait un peu le génie de Botticelli. Et là, pour le coup, on rentre dans une autre façon de figurer le réel, où le talent est nécessaire. Alors évidemment, il faut toujours du talent pour restituer le réel tel qu'il est. Ouais. Mais pour inventer un monde dans le monde qu'on représente. Vous pouvez peindre une femme, mais ce qui est intéressant, c'est pas la femme que vous représentez, c'est la façon que vous aurez de la représenter. C'est le style. C'est la question du style. Et il y a un moment donné où le sujet n'est plus, et pour répondre à la question de Céline, le sujet n'est plus le sujet, pour le coup, mais c'est le traitement du sujet qui va devenir le sujet. Et à un moment donné, où, pour arriver à la peinture profane, on prend l'exemple de Chardin, vous allez prendre des objets d'une grande trivialité. C'est-à-dire une bassine, un verre, un couteau, un
torchon, des pommes.
Et vous allez dire, mais regardez la formidable puissance du réel. On est loin de Jésus, de Marie, de Joseph, on est loin de Dieu, on est loin des anges, on est loin des auréoles peintes avec de l'or, parce que c'est une matière coûteuse, ou le manteau de la Vierge avec l'outre-mer, parce que le bleu outre-mer, il faut aller le chercher, comme son nom l'indique, au-delà de la mer et que ça coûte cher, etc. Pas du tout. Là, d'un seul coup, quelqu'un comme Chardin dit, regardez le réel tel qu'il est, je vous apprends à voir le réel tel qu'il est. Et il peint la lumière. Etc., etc. Et le profane devient plus profane encore avec l'invention de la photographie. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un type qui arrive et qui dit mettez-vous devant mon objectif, là, posez, parce que les temps de pose sont assez longs, et on fait une photo, et d'un seul coup, c'est totalement vous. Comment pouvez-vous continuer à peindre alors que finalement la photographie fait ça très bien? Pourquoi Ingres continue-t-il à peindre comme il peint alors que Nadar, par exemple, ou Garja font des photos et que finalement on pourrait demander aux photographes de faire ce travail? Alors, les impressionnistes arrivent.
Mais là, ça a été quand même un tremblement de terre, faut le dire, Michel Onfray.
Ça a été une révolution. La photo. La photographie,
un tremblement de terre dans l'art. Parce que avant, tout l'art qu'on connaît jusqu'à la photo, c'est on fait les portraits, des princes,
Donc on fait le portrait officiel du prince, etc. Et les impressionnistes disent, non, ce qui est intéressant, alors la photographie au sens étymologique, c'est l'écriture avec la lumière, on écrit avec la lumière. Eh bien, les impressionnistes disent, nous aussi, on va écrire avec la lumière. Et donc, quand Monet, par exemple, peint la façade de Rouen, je ne sais
combien... La cathédrale.
Et les meules, par exemple.
Les 25 meules de foin,
On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il en fait autant, C'est quoi l'intérêt? Il pourrait le faire une fois, puis l'affaire est réglée. Non, parce que ce qui l'intéresse, ça n'est pas la meule de foin, mais c'est l'effet de la lumière sur la meule de foin.
Effets de la lumière,
absolument.
Exactement.
Et quand vous regardez ces meules, moi, je suis un gamin de la campagne, donc j'en ai vu des meules de foin quand j'étais gamin, bon maintenant ça n'existe plus, mais on n'y voyait jamais de vert, on n'y voyait jamais de rose, on n'y voyait jamais de mauve, on n'y voyait jamais de parme, on n'y voyait jamais d'orange.
C'est le peintre qui met là.
Mais il y a tout ça sur la palette de Monet quand il peint ça. Et puis s'il peint la même meule, mais le matin, mais le soir, au lever de soleil, au coucher de soleil, au moment du zénith, etc. Il dit, regardez-moi, le sujet, c'est pas du tout l'objet, mais le sujet, c'est la lumière. Et puis, quand on continue comme ça, il y a un moment donné où on se dit, après tout, pourquoi même avoir besoin d'un sujet? On peut très bien peindre les effets de la lumière sans avoir besoin d'un prétexte. Voilà, d'un prétexte, qui serait la meule, la façade de la cathédrale, etc. Et là, l'abstraction arrive, et après, évidemment, c'est une espèce de surenchère, jusqu'à un Duchamp qui, lui, nous dit même à un moment donné, mais à quoi bon même le geste? Puisque l'intention suffira. Je prends cette pissotière, je dis qu'elle est une œuvre d'art, je ne fais rien d'autre que la
je l'accroche,
parce que je la pose.
On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio, Michel Onfray, les raisons de l'art. C'est dans un instant, restez avec nous.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit l'assiette et la pomme et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci, et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité.
Les terrifiants pépins de la réalité, le très beau poème de Jacques Prévert sur dit par Yves Montand, le peintre, la pomme et Picasso. Et effectivement, on continue avec Michel Onfray, Les raisons de l'art, un livre vraiment, que je recommande, un livre à lire pour quiconque s'intéresse à ce que c'est que la représentation, à ce que veut dire quelque chose que l'on regarde et dont on se nourrit.
Et oui, ce livre qui est donc publié chez Michel Onfray, chez Albin Michel.
Il est privé autodité.
Voilà, exactement. Alors Michel Onfray, effectivement, dans votre livre, eh bien, vous parlez bien entendu de Picasso, qui est donc selon vous, on peut le dire, le peintre le plus puissant, du XXe siècle.
Pas seulement selon lui,
beaucoup de gens, effectivement. Vous révélez à son sujet une anecdote donc incroyable, notamment à propos de sa peinture, Les Demoiselles d'Avignon. En fait, elles ne sont absolument pas d'Avignon, ces demoiselles.
Si, mais c'est d'un bordel. Ce sont des prostituées, en fait. Hein. C'est pas des jolies jeunes filles. Simplement, le galeriste a fait savoir à l'époque que c'était peut-être pas la peine de titrer de cette manière-là. Et quand
titrant
différemment,
putes d'Avignon,
voilà, oui, il valait mieux.
Mais elles étaient de Barcelone,
elles étaient, en fait, de Barcelone.
Oui, de Barcelone.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Oui. Mais ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que on s'aperçoit que le cartel, c'est-à-dire le petit carton sur lequel on met le titre, fait l'œuvre aussi. C'est pas la même œuvre que de dire qu'il s'agit de demoiselles d'Avignon, de dire que ce sont des prostituées de barcelonaises, quoi. Et, ceci dit, ça change rien plastiquement. Non. Mais à l'époque, surtout aujourd'hui, mais à l'époque, ça pouvait gêner, évidemment.
Et oui, effectivement, elle avait été refusée par le marchand à l'époque, Picasso. C'est ce que vous racontez. Alors Picasso, effectivement, disait « Je ne peins pas ce que je vois, mais ce que je pense », Michel Onfray.
Oui. Et c'est la peinture est causa mentale, disait Léonard de Vinci, c'est-à-dire c'est une chose mentale. Et il a complètement raison. Il y a cette vieille histoire de Parasios et de Zeuxis qui, dans l'Antiquité, passent pour deux très grands peintres et on se dit, on va faire un concours pour les départager. Et on leur dit, vous allez peindre une scène et vous allez mettre un petit rideau devant, puis à un moment donné, vous allez ouvrir le rideau et les jurés vont regarder et vont pouvoir juger quel est le meilleur, quoi. Et à un moment donné, Zeuxis tire le rideau et on voit une nature morte avec des grains de raisin, etc. Et arrive un oiseau qui prend ses grains de raisin pour des vrais raisins et qui vient se fracasser la tête sur les raisins de Zeuxis. Et là, les gens disent, bah oui, formidable, il est capable d'abuser des oiseaux, quoi. Et on dit, ben, Parasios, vous faites voir. Mais il dit, ben voilà, quoi. Il dit, ben non, mais faites voir, tirez le rideau, qu'on voit un peu ce que vous avez peint. Et il dit, ben, le rideau, c'est une peinture. Et là, les hommes disent, Zeuxis est capable de tromper des animaux, c'est bien, des oiseaux, mais lui, il est capable de tromper des hommes qui ne voient pas qu'il s'agissait d'une peinture de rideau et pas d'un rideau réel. Donc c'est la question de la figuration, de la semblance qui est ressemblance, et pendant très longtemps, le grand artiste, c'est celui qui ressemble le mieux, qui peint la semblance sur le mode de la ressemblance. Et encore aujourd'hui, des gens qui vous disent, c'est du Picasso. Moi, je me souviens, quand j'étais petit garçon, on disait, c'est les Beatles, ou c'est du Picasso. On avait les cheveux un peu longs, on était coiffés à la Beatles, et on dessinait n'importe quoi, et c'était du Picasso. Et bien évident que quand Picasso nous dit qu'il fait une chose mentale, c'est-à-dire qu'il ne peint pas ce qu'il voit d'une certaine manière, mais ce qu'il conçoit, et que ce qu'il conçoit, c'est sa manière à lui de voir, et que ces demoiselles d'Avignon, théoriquement, on n'en voit jamais aucune qui ressemble à ça. Y a pas, on n'est jamais anguleux à ce point-là, on n'est jamais... Mais pas non, plus, je dirais, que les femmes maniéristes,
non, mais
quand elles sont
peintes
par le Greco.
Picasso et son génie, pas seulement lui, c'est qu'il a dit, attendez, y a pas le visage, on va voir le visage sous toutes ses manières. C'est-à-dire, je mets dans, dans le même plan, sur un plan, je veux dire, horizontal, vertical, et à deux dimensions, mais je vais vous montrer les 10 dimensions dans les deux dimensions.
Alors ça, c'est, pour le coup, c'est l'intérêt de Cézanne, qui justement pose la question de ce qu'il appelle la vérité en peinture. Et de fait, la photographie, bah, évidemment, si on vous photographie de face, on ne vous aura pas de dos. Et si on vous photographie en face, on n'aura pas une contre-plongée, on n'aura pas ceci, on n'aura pas cela. Les cubistes disent, ah mais la question de la vérité, c'est la question des perspectives. Et je peux très bien, sur un même plan, c'est le génie de la peinture, vous photographier de face ou de profil, c'est ce que fait Picasso, évidemment. Mais avant lui, les cubistes déplient les formes. C'est-à-dire que ce qui était en trois dimensions se trouve déplié, aplati, et présenté sur une surface plane. Et c'est une autre façon de voir le réel et la totalité du réel. Alors, c'est un coup de génie pictural, mais c'est aussi un progrès dans l'histoire de la peinture. Parce que là, pour le coup, on se dit, après ça, quoi d'autre, quoi.
Oui. Et en fait, il y a eu d'autres choses. C'est les
et gens. Oui, alors Picasso, comme Chagall, Kandinsky, Klee, Marc Ernst, pardon, j'ai du mal à prononcer tout. Voilà. Et bien d'autres étaient pour les nazis donc des artistes dégénérés. Qu'est-ce que les nazis reprochaient à leur art? Racontez-nous.
Ben justement, de ne pas représenter fidèlement la réalité. Quand vous regardez les aquarelles d'Hitler, et que vous ne savez pas quelles sont d'Hitler, vous dites « Ah, quel joli paysage, et le personnage a du talent. » Les arbres ressemblent à des arbres, les prairies ressemblent à des prairies, les forêts ressemblent à des forêts, et on a envie d'encadrer ça, de mettre ça chez soi, en se disant « Ben voilà, dans un petit intérieur bourgeois, une scène pittoresque, une scène... » On dit « Mais c'est Adolf Hitler. » On dit « Ah oui, d'accord. » Et on voit quelle est la conception d'Hitler. La conception d'Hitler, c'est vraiment la conception classique. Il veut du Xuxis, lui. Il veut que les peintres peignent des raisins.
Il veut du réalisme.
C'est ça, il veut un réalisme. Et d'une certaine manière, on peut encore un peu toucher au réalisme. C'est ce que font les soviétiques, avec ce qu'ils appellent un réalisme socialiste. Mais sur une peinture, il faut que vous voyez un soldat qui ressemble à un soldat. Donc le soldat, il est franc, il est carré, il est viril, il est grand, il est fort, il est costaud, les femmes sont belles, elles sont blondes, elles ont des jolis seins, elles ont des enfants qu'elles allaitent, et elles ont la peau toute rose, etc. Les tracteurs sont sublimes, les instruments agricoles sont incroyable, parce qu'effectivement, les régimes totalitaires, droite et gauche confondus, sont des gens qui veulent le réalisme.
C'est même ce que vous dites dans votre livre, Michel, ce qui est très intéressant, c'est que vous mettez le parallèle, parce qu'on ne le fait pas d'habitude par politiquement correction, c'est entre l'art vanté par les nationaux-socialistes et l'art socialiste, il y a une vraie homothétie, quoi.
Oui, ben absolument. C'est quand on apprend par Paris Match que Alexis Corbière et Raquel Garrido ont un portrait de Lénine chez eux, ça ne gêne personne. Si Marine Le Pen avait un portrait d'Adolf Hitler, je pense que ça en gênerait plus. Simplement, on estime que sur le traitement plastique, c'est du réalisme socialiste, le portrait de Lénine, eh bien, ce serait aussi du réalisme socialiste. Mais sauce Arnaud Brecker, sauce nazi. Et là, on se dit, esthétiquement, on n'aime pas ce que fait le nazisme, et on peut comprendre, mais esthétiquement, on apprécierait ce que font les réalistes socialistes. Moi-même, je me suis retrouvé un jour en Ukraine, je faisais des conférences, je suis allé après sur un marché, et ils vendaient des œuvres d'art soviétique. Et j'ai failli en acheter une, puis je me suis dit à un moment donné, mais enfin, c'est tout de même un art de propagande. Je n'ai pas accroché chez moi un art de propagande stalinien, quoi. Donc effectivement, il y a eu un moment donné, tout au départ, où le marxisme-léninisme est intéressé par le futurisme, par le suprématisme. Vous avez parlé tout à l'heure de Casimir Malevitch. Et puis à un moment donné, on dit à Malevitch, bon, il faut arrêter ces trucs-là, quoi.
C'est décadent.
C'est décadent, c'est un truc d'intellectuel, en plus de ça c'est un truc de juif, souvent, etc., disaient les nazis, donc c'est de l'art dégénéré. L'art véritable, c'est l'art de Zeuxis, c'est l'art de la ressemblance. Tout ce qui n'est pas ressemblance, c'est dégénéré. Alors pour le coup, Van Gogh, pour le coup, alors il y avait les juifs, il y avait les communistes, il y avait les syphilitiques, il y avait les alcooliques, enfin pour tous les nazis, ce qu'on pouvait reprocher à Van Gogh, par exemple, c'était de boire de l'absinthe. Ce qu'on pouvait reprocher...
À Gauguin, c'est d'être morphinomane, c'est ça?
Par exemple.
En quelque sorte.
Non, mais même, alors, allons vers la peinture et les portraits. Ce qui ne supportait pas Georges Grosch et Pendant et compagnie, c'est la laideur. On ne peut pas montrer des gens laids ou des gens décatis.
Bien sûr. Mais Grosch fait une peinture incroyable de la guerre 14-18 en représentant vraiment... Alors, d'une certaine manière, c'est figuratif. On voit bien ce que c'est.
Oui,
mais c'est pas du tout une photographie. Mais on voit des corps déchiquetés, une boucherie incroyable, ces toiles sont extraordinaires. De vérisme, sans que ce soit de la ressemblance totale. Et effectivement, le nazisme nous dit, d'abord la guerre c'est une belle hygiène, et c'est formidable la guerre, donc on montre pas des bois noyaux, des corps déchiquetés, etc. Et quand on montre la guerre, on montre éventuellement un soldat qui part au front, oui. Ou qui sort de la tranchée avec... il est formidable, il regarde au loin, il s'en va tuer des gens, il va les embrocher, etc. Et donc là, on dit, c'est un art pacifiste. On n'a pas, on veut pas d'un art pacifiste. Donc il faut un art qui soit belliqueux, belliciste, il faut célébrer le soldat de la même manière que chez les soviétiques.
Avec les tracteurs,
absolument,
etc.
Absolument. Chez les soviétiques, le soldat, on a le soldat, bien sûr, mais on a aussi l'ouvrier, ou on a aussi l'industriel. C'est-à-dire que l'ouvrier qui travaille à la presse, par exemple, des immenses presses de plusieurs tonnes pour fabriquer de l'acier, etc., eh bien, c'est un soldat du régime. De la même manière que les paysans et les femmes aux formes opulentes, elles fabriquent des enfants, donc elles fabriquent des soldats pour le Troisième Reich, etc. Et donc, on voit bien là qu'il ne s'agit pas de faire des belles choses, mais qu'il s'agit toujours de faire du sens. De la même manière que on a vu qu'avec l'homme préhistorique, il s'agissait d'aller voir du côté des esprits. On a vu qu'avec la Renaissance, il s'agissait de restaurer les idées platoniciennes ou néoplatoniciennes. On a vu qu'avec Chardin, il s'agissait de restaurer la vérité de la réalité. Qu'avec les impressionnistes, il s'agissait de restaurer le primat de la lumière. Et qu'ensuite, quand on supprime le sujet et qu'on laisse complètement la lumière, on a l'abstraction. Le fameux Malevitch dont nous parlions tout à l'heure.
Le carré blanc sur fond blanc.
Que je travaille actuellement un livre sur les arts incohérents, ce qu'on appelle les arts incohérents. C'est un scoop que je vous donne, mais il y a 17 œuvres d'art incohérent qui ont été récemment retrouvées, elles vont être exposées bientôt, elles vont être montrées au public, et ce sont des gens qui ont fabriqué les premiers monochromes.
Ah
Paul
oui.
Biot, 1882, qui ont fabriqué...
Avant Yves Klein, avant,
bien
sûr, avant,
50 ouais. ans avant. Plus de 50 ans avant.
Donc, les Ready-Made.
Le Ready-Made. Ouais. Ils exposent, ouais. par exemple, un dentier dans ce alors, ça s'appelle les soirées de Médan. Donc, évidemment,
Zola.
Avec l'humour, les soirées de Médan que Zola a organisées chez lui.
Médan,
mais évidemment, Médan de NTS avec le dentier, etc. Donc, il y a l'humour, il y a tout ça. C'est-à-dire que tout Duchamp, tout le surréalisme, tout Tristan Tzara, Dada, le dadaïsme, etc., se trouve chez les artistes incohérents.
Ouais.
À quoi j'ajoute que, on peut dire oui, mais enfin, ils n'ont peut-être pas forcément connu les incohérents. Bien sûr que si. Alphonse Allais écrit l'album Primo Avrilesque, donc du 1er avril, où il raconte cette histoire du premier monochrome. Et ce premier monochrome a été découvert. On l'a, il est quelque part dans Paris, une galerie.
Ah,
il va être montré bientôt. Et le premier ready-made, connu comme tel, c'est un rideau de fiacre, choisi comme tel par Alphonse Allais. Et donc, ce qui est assez singulier, ce que je tâche de montrer dans ce livre, c'est que toute la modernité du XXe siècle, elle pille la modernité du 19e siècle sans le citer.
Sans le citer.
Alors oui, que oui. Duchamp connaissait l'album Primo Avrilesque, que Eric Satie connaissait Alphonse Allais. Alphonse Allais fait un concert de musique silencieuse.
On se hisse toujours sur les épaules de nos prédécesseurs.
C'est
hein,
ça. C'est-à-dire que, en fait, ces gens n'ont pas été si neufs que ça au 20e siècle. Ils avaient d'illustres ancêtres,
c'est
pilotés par quelqu'un qui s'appelait Jules Lévy.
Alors parlons un mot sur l'art contemporain, Michel Onfray. Qu'est-ce
temps.
Qui fait que l'art contemporain est devenu une activité pour Happy Few, selon vous ?
Ce qui a toujours été le cas, d'une certaine manière. C'est-à-dire, chaque art contemporain de son temps était fait pour les Happy Few. Il a toujours fallu que les artistes vivent et que donc il fallait qu'on leur passe commande. Qui passe commande ? Les gens qui ont de l'argent. Donc ce sont les rois, les princes, ce sont les papes.
Les mécènes.
Les mécènes. Et aujourd'hui, qui sont les mécènes ? Ce sont c'est les gens de la mafia russe, les gens de la mafia chinoise, ce sont les capitaines d'industrie, ce sont les grandes fortunes.
Le golf, le Qatar et compagnie.
Absolument, ouais. Absolument. Qui passe commande à des artistes contemporains. Alors bon, ces gens qui se présentent souvent comme des subversifs, ils sont quand même les amis des puissants parce qu'ils vendent très cher un certain nombre d'œuvres d'art qui ne peuvent être achetées que par les gens extrêmement puissants, dont le goût n'est pas si sûr que ça. Je ne donnerai pas de nom propre.
Mais... Non, mais alors justement, moi je voudrais juste arriver à cette rupture qui est le marché. Parce qu'il y a toujours eu, comme vous savez, depuis des siècles, effectivement, l'artiste devait vivre, hein, Léonard de Vinci, François Ier, etc. Mais juste une anecdote, moi je me rappelle dans un musée de Portland, dans l'Oregon, j'ai vu une œuvre de Koons, on parlait de Koons, où vous avez un aspirateur dans une couche de polystyrène, enfin même pas, avec un néon, et ça valait 2 millions de dollars. C'est-à-dire que l'artiste n'a pas touché. Bon. Et le marché, alors l'extraordinaire puissance du marché, on le voit partout, hein, dans le laisser-aller de l'ultralibéralisme, mais ça marche en art, en tout cas depuis.
Ah, mais bien sûr, il n'y a même que ça. Mais moi, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Pasquier, que peu de gens connaissent, mais que j'aime beaucoup et auquel j'ai consacré un livre il y a très longtemps, 1991, et qui a je ne sais combien de toiles chez lui, à Caen. C'est un ami qui vit à Caen. Et un jour, il a cassé un peu les prix parce qu'il avait besoin de financer un catalogue. Et il avait fait venir une vingtaine d'amis chez lui en disant, bon ben voilà, j'ai un certain nombre d'œuvres, je casse un peu les prix parce que bon. Là. Et je venais de faire ce livre sur cet ami et j'ai tiré quelques œuvres qui m'intéressaient. Et il y a des gens qui se disent « Ah, si Michel Onfray est intéressé par ces œuvres-là, ça m'intéresse aussi. » Et donc, c'est ce que Girard appelle le désir mimétique. Et à un moment donné, il y a des gens qui disent « Ah, mais oui, justement, il m'intéressait celle-là. » Bon, puis un peu plus tard, une autre m'intéresse, et ça aussi intéressait. Et à un moment donné, je me suis dit « Il y en a une qui ne m'intéressera pas, que je vais tirer en disant « Celle-ci m'intéresse », et j'ai eu exactement le même truc. » Donc je me suis aperçu, effectivement, que c'est l'offre et la demande qui fait la valeur, et qu'il y a des gens qui sont des prescripteurs. Et si vous dites « Ah mais je veux cette œuvre-là », eh bien elle vaut ce qu'elle vaut. Si vous êtes 10 à la vouloir, elle va valoir ce que le plus riche va
être capable.
Absolument. Si vous n'avez personne ne paiera. Si vous dites « Cette œuvre-là, c'est moi qui l'ai faite, et je suis juste, je sais pas quoi, un anonyme », les gens vont dire « Bah oui, mais ça m'intéresse pas ». Si vous dites « Ah non, Poisson d'avril, c'est Jeff Koons ». Alors là, vous dites « Ah, Jeff Koons, alors moi je suis capable de mettre tant, puis à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des sommes effarantes. » C'est la question du marché, effectivement, qui fait la loi.
Et oui. Alors revenons justement au bouquet de tulipes de Jeff Koons. Vous dites dans votre livre à ce sujet que ceux qui soutiennent cette œuvre prennent les gens pour des imbéciles. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, parce que d'abord, on nous a dit que ça avait été offert. Ça n'a pas été offert du tout. C'est-à-dire que quand vous offrez une œuvre comme celle-ci, il faut l'installer, il faut l'entretenir, et ça coûte cher aux contribuables parisiens, d'une part. On nous a dit ensuite que c'était une œuvre commémorative des attentats. Ah bon, c'est politiquement correct, c'est formidable, personne ne va être contre.
Oui. Pas dire. On ne voit pas le rapport. Hein.
Bah, d'abord, on peut dire, ah bah oui, bah, je ne vais pas être contre cette œuvre. Si je suis contre cette œuvre, je suis contre l'hommage. Et si je suis contre l'hommage, je suis un salaud. Donc c'est une espèce de piège qui vous est tendu. Puis après, vous dites, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder très exactement ce qu'il y a à voir? Non pas ce qu'on nous raconte, mais ce qu'il y a à voir. C'est quoi? C'est un bras qui tient un bouquet de tulipes par la queue. Et chacun sait bien qu'une tulipe, quelle que soit sa couleur, la queue est toujours verte. Il y a des tulipes roses, il y a des tulipes vertes, il y a des jaunes, il y a des tulipes de toutes les... Mais la queue est toujours verte. Et là, comme par hasard, regardez, à chaque fois que vous avez une tulipe rouge, la queue est rouge. Une tulipe verte, la queue est verte. Une tulipe jaune, la queue est jaune. Et comme par hasard, la totalité des queues de ces tulipes, et queue est à prendre à tous les sens du terme, eh bien, elles sont colorées. Et comme par hasard, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ. D'une part. D'autre part, vous avez ce point qui tient quand vous tenez des roses, vous n'êtes pas tenu des fleurs, vous n'êtes pas tenu de tenir comme on fait un fist-fucking, pour parler très précisément le français, et les pratiques sexuelles d'intromission d'un point puis d'un bras dans l'anus de quelqu'un. Donc vous avez tous les signes du LGBT, vous regardez la tulipe, vous vous dites, mais c'est une tulipe si l'on veut, mais on peut très bien regarder d'un point de vue de la botanique, je dirais, ça ressemble pas vraiment à des tulipes. Simplement, d'un point de vue de la proctologie, ça ressemble à des trous de balles, hein, franchement. Et si vous vous dites que, finalement, ce ne sont pas tant des bouquets de tulipes qu'on offre à des victimes des attentats, mais le bras d'un fist-fucking qui tient l'espèce de drapeau des LGBT, et ce drapeau présentant un bouquet d'anus, vous dites, ça ne veut pas dire très exactement la même chose que ce qu'on nous raconte. Alors, on a le droit d'aimer ça. J'ai rien à dire contre cette œuvre, si elle signifie ça, et qu'on l'apprécie pour cette raison-là. De la même manière que notre époque célèbre un plug anal, le vagin de la reine, et les gens finissent par croire que l'art contemporain, ça n'est que de la scatologie. Je leur dis non, c'est juste un art qu'on peut ne pas aimer. Enfin, non, pas pour des raisons
idéologiques. C'est un art créé par le marché, on va en parler.
Oui, l'art contemporain, effectivement, c'est une langue à laquelle il faut être initié. Michel Onfray, on en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Si mon machin, c'est du poulet, la poule au pot doit bien se marrer. Depuis que je touche des nouveaux francs, je mets des virgules aux ortolans. Les temps sont difficiles. Van Gogh l'a de peindre sa chaise, s'était ouvert une portugaise, Gauguin crevait à Tahiti, dans la mistoufle et dans l'ennui, les temps étaient bizarres. Van Gogh maintenant vaut des millions, Gauguin se vend mieux que du cochon, rien n'a changé, on tourne en rond, et dure, dure ma chanson.
Voilà.
Le temps que je me marre.
Eh oui, Van Gogh vaut des millions, Zéléo Ferré, encore ça les vaut, mais le marché,
Et on a vu des plugs anneaux qui se vendaient aussi à des millions, et là, c'est moins légitime. Mais autre manche, il y a Michel Onfray.
Michel Onfray, alors vous avez créé à Chambois, dans l'ordre, une université populaire des Beaux-Arts, et pour ce faire, vous avez besoin de soutien.
Oui, vous êtes gentil de me permettre de le dire. Oui, parce qu'effectivement, si l'art contemporain est un langage, il faut l'apprendre, et où peut-on l'apprendre aujourd'hui? Il n'y a rien sur les médias, il n'y a rien qui soit digne de ce nom sur le service public. On peut évidemment aller aux Beaux-Arts, mais pour le coup, il faut s'inscrire, et puis il faut devenir soi-même un artiste, ou être là en auditeur libre, je dirais. Et je voudrais effectivement enseigner ce que je propose là, dans les raisons de l'art, et installer un amphithéâtre dans mon village, avec un resto, un bar, pour redynamiser en même temps le village. J'ai été viré de Caen avec mon université populaire par le maire, qui est Macron compatible, et puis de France Culture par Sandrine Trenner, qui est aussi Macron compatible. Et je ne voudrais pas m'avouer vaincu, et je recrée une université populaire pour initier le plus grand nombre. Alors après, évidemment, il faut trouver des mécènes, il faut trouver de l'argent, et ça, c'est plus compliqué.
L'idée, c'est de reprendre en quelque sorte l'idée de Malraux, c'est ça?
Complètement, vous avez raison. Ce personnage est un génie méconnu. Enfin, on connaît ses romans, on connaît éventuellement le ministre du général de Gaulle, mais sans trop savoir ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Je voudrais pouvoir enseigner justement les histoires de l'histoire de l'art. Ce qu'on a dit pour sortir un jour une œuvre de là où elle est en disant c'est une œuvre d'art. Parce que par exemple, pendant très longtemps, l'art africain, c'était pas de l'art. De la même manière que l'art préhistorique, c'était pas de l'art non plus. Et d'un seul coup, on dit, ah mais non, ce sont pas des objets rituels, ce sont des objets d'art. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on va promouvoir du beau, fabriquer du beau, etc. Donc je voudrais enseigner l'esthétique, l'histoire de l'esthétique, la conception du beau et de la beauté, l'évolution, enfin faire un travail d'éducation populaire dans l'esprit de Malraux, c'est-à-dire de la qualité, bien sûr, et pour le plus grand nombre. Pas besoin d'être agrégé de philo pour assister à des séminaires sur lesquels on réfléchira, parce que j'ai quelques amis qui sont intéressés avec moi par ce projet, mais on réfléchira à l'articulation entre la beauté de toujours et l'époque d'aujourd'hui.
Et pour reprendre la titre de Malraux, le musée imaginaire.
Absolument.
Le musée et l'imaginaire.
Absolument.
Michel Onfray, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, donc Les raisons de l'art, une initiation à l'art de Lascaux à Jeff Koons, est paru chez Albin Michel. J'indique aussi que hier, vous avez sorti aux éditions Bouquin la conversion Vivre selon Lucrèce. Tout de suite sur Sud Radio, c'est Brigitte Lahaye. Comment faire durer l'intimité dans le couple? Réponse dans un instant avec Sandy Boulanger, qui est relaxologue et sexothérapeute.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.